Bonjour à tous, bienvenue à l'église Protection évangélique de Vincennes. Je suis le pasteur Joël. Et comme vous savez bien, et nous avons commencé une série de prédications qui nous parlent de revenir aux bases de la parole de Dieu, de la Bible, de notre foi. Et la semaine dernière, nous avions parlé de ce qui est très important, le plus important dans notre vie. C'est de connaître Christ comme sauveur personnel. Et la semaine dernière, quelqu'un a manifesté avoir reçu Christ. Donc merci Seigneur pour cette vie qui a passé de la mort à la vie. Il y a une autre chose très essentielle donc, quand on parle du salut, de tout le thème du salut, c'est être sûr que nous savons Dieu dans notre vie. Et pour mettre un peu un titre d'exemple, nous sommes toujours amenés à prévoir des différentes assurances pour notre vie. Et des assurances pour la voiture, des assurances pour la vie, et l'assurance d'essai. Et même l'autre jour, j'ai reçu une lettre qui me disait une assurance facture. Bon, j'ai l'ouvert. Il disait c'était une proposition de GDF Suez, donc pour le gaz. Si au cas où vous ne pouvez plus marcher, il me disait que c'était très bien, ça coûtait que 3€. Donc, et je dis bon, pourquoi pas, mais comme mon père m'a toujours dit, il faut lire toutes les conditions générales avant que tu dises oui. Bon, voilà. D'accord? Donc, je commence à lire les conditions générales. Et dans les conditions générales, il y a seulement un moment spécifique que cette assurance couvre. C'est seulement quand je ne pourrai plus marcher par moi-même. Donc, dans le sens où soit je meurs, ou soit je suis handicapé, je ne peux plus travailler, je ne peux pas supporter le besoin à ma famille. Donc, évidemment, ça m'a fait marrer parce que ça dépend de moi, ça dépend si moi je suis bien. Donc, sinon, soit je meurs, ou soit je ne peux plus rien faire. Donc, à quoi ça sert? Simplement à rien. Donc, j'ai dit non, merci. Mais dans tous ces types d'assurance, donc les assurances d'essai et de voitures, de maisons, et même des assurances comme ça, de factures, il implique toujours une autre personne. Il implique toujours quelqu'un d'autre qui, il y a certaines conditions à remplir pour profiter de cette assurance. Malheureusement, ça c'est un type d'assurance humaine, mais ce n'est pas une assurance divine. Aujourd'hui, on va voir que notre assurance en Dieu, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de quelqu'un faible, ça ne dépend pas de quelqu'un qui peut mourir. Aujourd'hui, nous allons voir que toute la base de notre assurance s'est fondée sur la fidélité de Dieu envers nous. Sur la fidélité de Dieu, pour ce qui il est, et pas parce que ce que je fais. Pour commencer, on va lire ensemble, si vous voulez venir avec moi, à Romains 5, chapitre 5, verset 6 à 8. Romains 5, verset 6 à 8. Donc, la Bible dit ceci. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, en temps marqué, est mort pour nous, pour des impies. » Après mourra-t-on pour un juste? Quelqu'un peut-être mourir pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pas compliqué de comprendre ces versets, mes frères en Christ, et mes amis qui vont nous visiter ce matin. C'est simplement, l'apôtre Paul dit quoi? C'est dans le moment où nous, on ne pouvait pas arriver à Dieu, lui, à cause de sa miséricorde, à cause de son grand amour qui nous a aimés, il a décidé de mourir pour nous. Et même si quelqu'un, c'est marqué verset 7, à peine mourra-t-on pour un juste, mais Dieu prouve son amour envers nous. Voilà sa fidélité. C'était lui qui a payé pour moi. Comme on disait là, la semaine dernière, la dette envers le Père, elle était éternelle. Il fallait quelqu'un, à la fois homme et à la fois Dieu, pour payer cette dette. Et la seule personne, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'était Jésus-Christ, l'homme. L'homme. Alors, ce matin, nous allons voir les trois choses spécifiques de comment je peux être sûr de mon salut. Encore une fois, je vais redire parce que c'est la base de notre assurance en Christ. Toute base de mon assurance est fondée sur la fidélité de Dieu. Donc, voilà, on y va. Donc, premier point. Je suis sûr parce qu'il m'a sauvé. Je suis sûr parce qu'il m'a sauvé. Colossiens chapitre 1, donc je vous demande de tourner aussi avec moi. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Colossiens 1, verset 12 à 14. La parole de Dieu dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans sa lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Alors, c'est très, très, très incroyable. Là, c'est marqué qu'il nous a vraiment délivré. Et là, le mot, l'original, c'est être arraché de quelque chose. Là, selon la Bible, on était arraché des puissances des ténèbres. Mes amis, tout ça, on le voit pas. C'est dans le moment qu'on a accepté Christ comme sauveur que tout ça, ça s'arrive dans notre vie. Alors, j'espère que vous me suivez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement qu'il nous a délivré, il nous a transporté au royaume de son Fils bien-aimé. Donc, pas simplement qu'il nous arrache du camp ennemi, il nous met dans le camp de son Fils bien-aimé. Pourquoi? Pour nous rendre capables, aptes. Pourquoi? D'avoir part à l'héritage qui nous est réservé. Donc, c'est énorme. Ce n'est pas simplement qu'il nous sauve de l'enfer, c'est qu'il nous rend capable de pouvoir y aller directement au ciel avec lui. Souvenez-vous, ce matin, on a chanté « Tu es saint, tu es saint, tu es saint. » C'est Dieu trois fois saint. Ne peut pas permettre du péché chez lui. Alors, si je ne peux pas enlever mon péché, c'était impossible de travailler avec lui. Et là, c'est marqué. Il nous a rendu capable à cause des cours, à cause de son pardon, à cause de sa rédemption. Et là, on verra d'ici 2-3 dimanches qu'est-ce que ça veut dire rédemption. Alors, on continue. Hébreux chapitre 10, on parle plus loin que Colossiens. Hébreux chapitre 10, verset 10 à 12. La parole de Dieu dit ceci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent pas jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Une seule fois pour toutes. Mes amis, quand nous demandons pardon de nos péchés à Dieu, c'est simplement une seule fois pour toutes. On ne peut pas ramener Christ à la croix plusieurs fois. C'est impossible. La Bible nous dit, c'est une seule fois pour tout. Une seule fois pour effacer nos péchés. Passé, présent et futur. Amen pour cela. Mais une seule fois pour tout. Alors, il faut qu'on fasse bien la différence. Une chose, c'est de demander à Christ pardon pour nos péchés, pour qu'il nous sauve et soit notre sauveur. Et l'autre chose, c'est de confesser nos péchés. Quand on a Christ dans notre vie, on confesse nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire confesser? Ça veut dire la même chose que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi je parle? Par exemple, si moi j'ai menti, oui Seigneur, j'ai menti. Je te confesse ce péché, pardonne-moi. D'accord, voilà, mais c'est complètement différent. Il y a deux choses qui sont complètement à part. Le salut et la confession des péchés. Alors, il nous a arraché du camp ennemi. Il nous a sauvé. Il est venu une seule fois pour toutes. Et Jean 10, 27 à 30, Ce matin, on va aller un peu à droite à gauche de la Bible. Donc. Et on doit avec moi Jean 10, verset 27 à 30. Dis ceci la parole de Dieu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Là, c'est quelque chose d'énorme. C'est le même passage que ma femme est en train d'utiliser avec les enfants. Là, quand nous trouvons dans la parole de Dieu. Et, non, pardon, je me suis trompé de verset. Et là, Dieu, imaginez-vous, l'assurance qu'on a, toute la puissance de Dieu, toute la puissance de Dieu le Père, parce que c'est marqué dans le verset 30, c'est moi et le Père, nous sommes ça. Donc, toute la puissance du Père est à Jésus. Donc, si c'est Jésus qui parle, ils sont un avec Dieu le Père. Donc, personne ni aucune circonstance peut nous enlever de la main de Dieu. C'est vraiment quelque chose d'énorme. On a un Dieu qui prend soin de nous. On a un Dieu qui nous regarde si on est en détresse. Dieu est là. Mais ça ne vaut rien voir avec notre salut. Ça vaut avec notre vie chrétienne. Jean 5, verset 24. Jean, chapitre 5, verset 24, dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais sont passés de la vie, de la mort à la vie. Alors, que chaque fois que vous trouviez dans la parole de Dieu cette phrase, en vérité, je vous le dis, ça veut dire quoi? C'est une double affirmation très solide. C'est comme si Jésus disait, oui, vraiment, je vous l'assure, quoi? C'est lui qui écoute ma parole, c'est lui qui croit. Si vous l'avez fait déjà ça, c'est Christ. Vous savez, la vie éternelle, ça veut dire quoi? Ah, la vie éternelle. C'est en façon continue. Donc, ça veut dire quoi? Toujours, ça ne se termine pas. On ne peut pas l'enlever. Et ne vient point en jugement. C'est une promesse. Mais il est passé de la vie, passé de la mort à la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la mort à la vie? On va réfléchir ensemble en Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 7. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 7. Dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 1, vous étiez morts par vos péchés et vos offenses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être mort? Le mot mort dans la parole de Dieu, et il nous parle de quelque chose de différent à perdre la vie. D'accord, c'est pas comme aujourd'hui, on comprend mort pour et que la vie s'éteinte. En fait, dans la parole de Dieu, le mot mort, ça veut dire une séparation. Alors, il y a trois types de morts qui la parole de Dieu nous parle. La première, c'est la mort physique. Donc, c'est la séparation de l'âme du corps. Deuxième, c'est la mort éternelle. C'est la séparation de Dieu, de l'homme de Dieu pour l'éternité, à cause du rejet du sacrifice de Dieu et de son pardon. 3. La mort spirituelle. C'est la condition spirituelle que nous avons depuis la naissance. Séparé de Dieu à cause du péché, et c'était à cause de notre ancêtre, à cause d'Adam et Ève, qui sont péchés quand ils sont désobéis Dieu, ils ont mangé du fruit qui était interdit. Alors, si nous étions morts, si nous étions sans vie, Dieu dit là, verset et 4 de Éphésiens 2, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous sommes quoi? Rendus vivants avec Christ. » C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Énorme. Donc mes amis, vous voyez, on était morts, on était enfoncés dans notre péché et délit. Même si moi, je n'avais pas commis aucun crime, j'étais coupable de quoi? De péché, de désobéissant. De quoi? D'un fils de rébellion, c'est marqué là. Et Dieu, dans le moment que j'ai voulu écouter et croire, Dieu est devenu mon sauveur. Et je pense que la plupart de vous ce matin, Dieu est votre sauveur. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Dieu nous a ressuscité. Lui, en ressuscitant au troisième jour, il a vaincu la mort. Et merci Seigneur, parce que lui, il est tout puissant pour nous assurer qu'on soit tranquille, qu'on est sûr parce qu'il m'a sauvé. Encore une fois, c'est ce que lui, il a fait. Ce n'est pas moi qui a cette assurance. C'est mon assurance est basée sur sa fidélité, sur ma vie. Alors, on va continuer. Pas simplement je suis sûr parce qu'il m'a sauvé. Je suis sûr parce qu'il m'a scellé. Scellé. Éphésiens chapitre 1, on reste là à côté. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, scellé, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous, dans l'Antiquité, quand un roi voulait envoyer quelque chose d'important et quelque chose qu'il fallait accomplir, il mettait son signe sur un bout de cire. Vous voyez, dans du cire chaude, il mettait le bouclier qu'il avait de sa famille, qui marquait qu'il était roi. Il dit, c'est moi qui le dis, il faut le faire. Et même quand il fermait la lettre derrière avec la même chose, il était interdit de l'ouvrir à qui peut-être la personne pouvait mourir. Alors dire ami, sa vague qui dit, lui m'appartient, il est mon fils, il est à moi. On est scellé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est notre gage. Et là, c'est marqué, c'est notre gage. Qu'est-ce que c'est quoi un gage? C'est une garantie. Dès que quand Dieu viendra chercher son Église pour qu'on soit pour lui pour l'éternité, il verra sa marque en nous. Il va dire, voilà mon fils, voilà mon fils, voilà ma fille, voilà mon fils. Donc, on lui appartient. Et c'est tellement énorme. Même Jean, je pense que vous le connaissez, mais il faut le dire parce que c'est une vérité énorme. Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Énorme! On laisse d'être enfant de colère pour devenir quoi? Enfant de Dieu. Et verset 13, c'est « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. » Encore une fois, ce n'est pas nous, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà ce qui est très important, mes amis, mes frères en Christ, pour nous ce matin, de nous mettre dans notre tête et d'apprendre cette vérité. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui nous assure. C'est Dieu qui nous dit, Joël, Marcella, Marcel et François, Noélie, je suis sûr parce qu'il m'a sauvé. Je suis sûr parce qu'il m'a scellé. Mais alors, une troisième chose. Je suis sûr parce qu'il me soutient. 1 Jean chapitre 5, on va jusqu'au bout, presque au bout de la Bible. 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 13. 1 Jean 5, versets 10 à 13. Dit ceci la parole de Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage. Entendez bien contre lui. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait quoi? Menteur. Puisqu'il n'a pas cru et n'a pas eu témoignage que Dieu a rendu son Fils. Verset 11. Et voici ce témoignage, ce que Dieu nous a. Encore une fois, deuxième fois, nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Verset 12. Celui qui a, troisième fois, le Fils, a, quatrième fois, la vie. Celui qui n'a pas le Fils, Dieu n'a pas la vie. Verset 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ah là là, mes amis, là c'est un très fort passage qui nous assure que si on a cru, c'est Dieu. Si on l'a accepté comme sauveur, nous avons la vie éternelle. Sinon, c'est marqué qu'on fait Christ menteur. Alors, est-ce que Dieu peut mentir? Non, n'est-ce pas? C'est une des choses que Dieu ne peut pas faire. Et une autre chose que Dieu ne peut pas faire, c'est Dieu ne peut ne pas aimer. C'est impossible. Dieu est amour. Dieu aime, quoi que ce soit. Alors, Dieu ne peut pas mentir. Alors, si Dieu ne peut pas mentir, est-ce que la vie éternelle, il peut l'enlever? Non. Pourquoi? Parce qu'il a promis. S'il a promis, il a fait tout ce qu'il fallait pour nous la donner. Il ne va jamais revenir en arrière. Jamais. Pourquoi? Parce que lui, il tient ses promesses. Et s'il tient ses promesses, nous sommes sûrs. Évidemment, nous, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas tenir nos promesses. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Et notre péché, des fois, il efface de notre vision la vérité. Il la couvre. Mais pour Dieu, il n'y a rien qui le couvre. Il n'y a rien qui l'empêche de faire le bien. Il tient ses promesses. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, un poil plus en arrière. Hébreux chapitre 6, verset 19. Hébreux 6, verset 19. Il me soutient. La parole de Dieu dit ceci. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Sûre et solide. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un bateau reste pas à côté du port, parce que là, ils jettent leur corde, mais c'est au milieu de la mer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent leur ancre. Donc, pourquoi faire? Pour ne pas bouger. Et là, c'est marqué quoi? Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûr et solide. Dieu nous soutient. Dieu nous soutient. Cette espérance est sûre et solide. S'il est sûr et solide, quelque chose peut la bouger? Non. Non. Je ne sais pas s'il existe le mot en français. Imbougeable. Bon, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Mais bon. Et là, c'est marqué après, elle pénètre au-delà du voile. Simplement pour vous expliquer, on va s'élargir plus et une prochaine fois. Mais quand c'est marqué qui pénètre au-delà des voiles, dans l'Antiquité, et Dieu s'est révélé aux hommes à travers un tabernacle. C'était un style de tente qu'il avait deux parties. Une grande partie, s'appelait le lieu saint, et la dernière partie s'appelait le lieu très saint. Alors, dans le lieu très saint, et c'est où la présence de Dieu venait une fois par an, et le souverain sacrificateur venait et versait le sang du sacrifice pour que Dieu couvre le péché de la nation. Et si l'Éternel acceptait le sacrifice, le peuple était bien. Mais si Dieu n'acceptait pas le sacrifice, le souverain sacrificateur mourait. Et comme bien Jean vient de nous faire comprendre, Et ils étaient, évidemment, personne ne pouvait rentrer sauf le souverain sacrificateur dans cette partie-là. Donc, il avait une corde en or attachée à ses pieds. Donc, pour le tirer au cas où, il mourrait dedans. Alors, imaginez-vous, c'était simplement une fois par an, une seule personne qui pouvait rentrer. Alors, donc, quand Jésus mourait sur la croix, il était, souvenez-vous, que c'est marqué que le voile du temple était arraché. Pour dire quoi? Que tous étaient capables de rentrer à la présence de Dieu à travers quoi? À travers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Alors, souvenez-vous que chaque fois, que chaque année, il mettait une pièce de plus de tissu sur le voile. Donc, il était très, très épais, cette voile. Donc, imaginez-vous le bruit énorme qu'il a fait pour que les personnes qui étaient dans le monde de Calvaire, ils ont entendu ce bruit. Donc, ce bruit, il est marqué quoi? Que tous pouvaient rentrer devant Dieu. Et cette espérance, c'est marqué dans Hébreux chapitre 6, verset 19, on a cette espérance comme une encre de l'âme. Une encre de l'âme. Alors, il est sur ce livre. Et si on tourne nos Bibles une dernière fois, sur Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, dit ceci, après savoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa puissance, par sa parole puissante. Il a fait de la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Mes amis, je suis sûr de mon salut parce qu'il me soutient. Mais c'est quoi qui me soutient? C'est sa majesté. Là, c'est marqué par sa parole puissante. Et là, je peux dire, on n'a rien de plus. Rien de plus à penser et rien de plus à dire. Pourquoi? Parce qu'on a tout dit. Dieu est là. Dieu m'a sauvé. Je suis sûr parce que c'était lui qui l'a fait. Je suis sûr parce que c'est lui qui m'a scellé. J'ai son gage, j'ai l'Esprit Saint dans ma vie. Donc l'Esprit Saint me dit, m'assure que je suis son fils. Alors, je m'arrête pour poser la question, est-ce que vous êtes sûr que Dieu est votre sauveur? Est-ce que vous êtes sûr que l'Esprit Saint demeure dans votre vie? Et si c'est le cas, il dit quoi? Il me soutient. L'Esprit Saint nous fait souvenir. Il me soutient. Et à ses promesses, Dieu ne peut pas mentir. Il est sûr et solide, cette espérance. Il ne bouge pas. Comme il ne bouge pas, pourquoi? Parce qu'on est dans les mains de Père. Ses brebis n'ont pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les mains de son berger. Et tout ça est entouré par la majesté de Dieu. Et tout est soumis à son soutien par sa parole puissante. Par sa parole puissante. Alors, ce matin, qu'est-ce que nous espérons? Êtes-vous sûr de votre salut? Si oui, amen. C'est oui, amen. Sinon, aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le moment de dire, Seigneur, merci pour ce que j'ai appris ce matin. Seigneur, merci parce que aujourd'hui, je sais que j'ai la vie éternelle. Et personne peut me l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est toi qui promets. C'est toi qui promets. Prions ensemble. Seigneur, merci beaucoup pour ce matin. Seigneur, merci parce que tu ne nous as jamais délaissés. Seigneur, merci parce que si tu es venu ici sur terre pour mourir pour nous et ressusciter pour nous donner cette espérance, ce n'était pas en vain. Ce n'était pas, Seigneur, pour te faire mourir chaque fois qu'on commet un péché. Seigneur, merci parce que tu es mort une seule fois pour toutes. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Je te remercie parce que tu nous soutiens. Je te remercie parce qu'on était scellés de ton Saint-Esprit. Et Seigneur, je te demande que tu nous aides à vivre conforme à cette assurance, en sachant qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut nous faire mal. Merci Seigneur pour ton amour. Je te demande que tu nous guides pendant le reste de cette semaine. En ton nom Seigneur. Amen.